BD culte, exploration de planches iconiques de l'histoire du 9e art. Ce mois-ci, nous allons parler de Peyo et des Schtroumpfs. Alors, les Schtroumpfs ont eu 65 ans en 2023. Effectivement, c'était un anniversaire. Peyo n'est plus parmi nous. On a le tome 41 où Gargamel de Sorcier et Demi est devenu l'ami des Schtroumpfs. C'est sorti en octobre 2023. Et on a eu un peu avant, au mois de mai, un album hommage, un album Les Schtroumpfs vu par Thébaud. Qui est ce Schtroumpf, avec un Schtroumpf étonnant. Et on a toujours énormément d'expositions, de ventes, de personnages dérivés autour des Schtroumpfs. Alors, nous allons parler d'une planche, d'un album, d'une autre série qui s'appelle la série Johan et Pierluitte. C'est le tome 9 et c'est là où les Schtroumpfs sont apparus. Donc nous allons évoquer trois planches, la planche 36, 37 et 38, qui ont été reprises dans la très belle intégrale Dupuis, le tome 3, où effectivement on a un art du suspense, parce que les Schtroumpfs apparaissent à un petit œil, page 18, et on donne le nom, un enchanteur donne leur nom, page 34, et on les voit vraiment, page 36. Donc là, on rentre dans la genèse de ces personnages étonnants de l'histoire du 9e art. Alors, surtout que l'album en question, au début, il s'appelle La flûte à six trous, et pas la flûte à six Schtroumpfs. Donc c'est la 16e histoire d'une série qui s'appelle Johan et Pierluitte, publiée dans le journal Spirou, publiée en album en 1960. Et ce qui est intéressant, c'est que les Schtroumpfs vont avoir une suite à leur taille, c'est-à-dire qu'ils vont avoir dès 59 des mini-récits. Delport, qui est rédac-chef, va donner un coup de main à Peyo, ça donne les Schtroumpfs noirs, publiés en album. Ensuite, on va avoir toute une série d'albums autour d'une quarantaine de planches et 16 albums que Peyo va totalement dessiner, scénariser en partie, jusqu'à sa disparition en 92. Alors, qui est Peyo ? Peyo, à la base, s'appelle Pierre Culliford. Il est né en 1928 dans une famille catholique à Bruxelles. Alors, comme beaucoup, il est fan de Disney, mais il adore aussi l'histoire de Rome, l'histoire de pirates. Il va être assistant projectionniste, puis animateur avec Maurice, dont on a parlé, à la CBA aussi. Et Franquin travaille aussi avec lui. Et on a un petit film de la CBA qui s'appelle Le cadeau de la fée, où on voit des petits lutins qui sont un peu les ancêtres des Schtroumpfs. Il devient dessinateur publicitaire. Il illustre aussi la presse avec Le Petit Monde, Le Moustique, Le Soir, où il crée le personnage du chat Poussy. Et c'est grâce à Franquin qu'il rentre au journal Spirou en 52. Donc il va travailler simultanément à un moment donné sur quatre séries, Poussy, Johan et Pierluitte, Les Schtroumpfs et Benoît Brisefer, qu'il va donner ensuite à d'autres dessinateurs. Il va être scénariste sur Jackie et Célestin, qui vont être dessinés par Will, puis par François Valtteri. Et Peyo va énormément travailler sur l'adaptation cinématographique des Schtroumpfs, notamment aux États-Unis. Puisque aux États-Unis, une petite fille qui a un coup de cœur pour une peluche. Et cette petite fille, son papa, c'est Fred Silberman, qui est directeur de NBC. Et du coup, à partir de là, va s'ouvrir une période faste pour Peyo de la rencontre avec les studios Anna et Barbara, dont on reparlera après. Alors, ce qui est important, c'est de nous donner le contexte de la planche que nous allons écouter. C'est que on est au Moyen-Âge, on a Pierluitte qui est un peu le fou du roi, et grâce à un marchand, il entre en possession d'une flûte magique. Hein, cette flûte, elle a six trous, et toute personne qui entend la musique de cette flûte enchantée se met à danser, et ne peut plus s'arrêter de danser. Il y a eu, d'ailleurs, Michel Foucault, dans un bouquin sur l'histoire de la folie, porte des choses comme ça qui auraient existé. Mais bon, on est quand même dans la mythologie. Et malheureusement, bien entendu, quand il y a des objets magiques, il y a quelqu'un qui s'appelle Mathieu de Torchesac qui va s'emparer de la flûte parce qu'il va faire un usage criminel, bien entendu. Donc, il vole la flûte à Pierluitte et voyage à travers le pays pour voler les gens. Johan et Pierluitte essayent de reprendre la flûte, mais ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas sans aide. Donc, ils vont consulter le magicien Omnibus, qu'ils ont rencontré dans la pierre de lune, et le magicien va leur dire de consulter les fabricants de cette flûte. Ces fabricants, ce sont les Schtroumpfs. Voilà, donc, ces Schtroumpfs, ils habitent dans un pays qui s'appelle le Pays Maudit, et là, dans les planches, nous allons écouter, nos personnages arrivent dans le Pays Maudit, où ils ont été envoyés par magie par le magicien Omnibus. On écoute les planches.
Johan, Johan, Hein? Où sommes-nous?
Ben, si l'omnibus ne s'est pas trompé, on doit être au pays des Schtroumpfs. Et alors, où sont-ils ces Schtroumpfs? Eh oh! Où êtes-vous?
Regardez vos Schtroumpfs et vos Schtroumpfs!
Qu'est-ce que c'est?
Qui? Pirluit!
Là!
Mais, c'est Joy! Pirluit! Quel beau Schtroumpf vous amène! Oh, c'est le grand Schtroumpf qui sera content de vous Schtroumpfer!
De nous quoi?
Venez, Schtroumpfez-moi! Je vais vous Schtroumpfer jusqu'au village!
Qu'est-ce qu'il raconte?
Je crois qu'il nous dit de le suivre!
Et tous les Schtroumpfs aussi! Ils vont Schtroumpfer de Schtroumpf! Oh, Schtroumpf, que je vous ai Schtroumpfé!
Et Pirluit, ils sont là,
ils sont là.
Il faut schtroumpfer ça au grand schtroumpf.
Que se passe-t-il?
C'est Jean,
c'est Jean, c'est Jean.
Et Pirluit,
et Pirluit,
c'est Jean, c'est Jean,
c'est schtroumpf.
Oh là, du calme, du calme. Allons les accueillir.
Voilà le grand schtroumpf.
Eh ben, si c'est ça le grand schtroumpf, moi je suis l'immense Pirluit.
Soyez les bienvenus.
Bonjour, grand schtroumpf. Nous sommes venus vous demander...
Où se trouve la flûte à six schtroumpfs?
Ce seul schtroumpf,
c'est ton schtroumpf.
C'est le seul schtroumpf.
Du calme. Allez donc schtroumpfer ailleurs. Ces petits schtroumpfs tout de même, parce qu'ils ont 100 ans, ils se croient tout permis.
100 ans?
Mais alors, vous, quel âge avez-vous?
J'ai eu 542 ans aux chanterelles.
Eh ben, vous les faites pas, hein.
Venez, je vais vous faire visiter le village.
Voilà, donc trois planches, trois gaufriers classiques, sauf un plan de situation, hein, un plan de situation muet, pays maudit. Donc on est dans une espèce d'ambiance un peu grise, un peu angoissante. Et ça va contraster avec le dévoilement d'un petit village. Alors ce qui est intéressant, c'est le cadrage qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on on va cadrer un plan large, une pierre, donc le sens du mystère, une pierre qui parle. Mais non, derrière la pierre, il y a un petit personnage qui apparaît. Et après, nous arrivons à un village de champignons. Donc Peyo aère ses planches, crée un dialogue et on passe de l'inquiétude d'un paysage désertique, donc le pays maudit, à un paradoxe. Ce pays maudit est plein de personnages qui sont plutôt sympathiques et que, effectivement, Johan et Pirluit vont apprendre à découvrir avec toujours des champignons qui envahissent les planches et un personnage se distingue sur le plan graphique. C'est le grand Schtroumpf avec sa barbe blanche et son bonnet rouge. Voilà. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce voyage qui est fait dans cette planche, dans le temps et dans l'espace, avec différents types de proportions, et aussi dans les phylactères, on apprend qu'il y a une différence d'âge. Hein, le grand Schtroumpf, lui, a 542 ans, et les autres Schtroumpfs n'en ont que 100. Et tout de suite, on établit des codes couleurs très clairs, hein, sur la dynamique de cette vie de village. Alors, le personnage héroïque qui apparaît dans la première série, c'est bien entendu le chevalier, Johan. Alors, lui, il va évoluer sur le plan graphique. Au début, c'est un page blond. Il va devenir écuyer avec une chevelure beaucoup plus sombre. On le voit la première fois dans un gag muet en 46 qui s'appelle La Dernière Heure. Et ensuite, nous allons avoir une série de 13 albums de 52 à 70 qui va être prise après 20 ans d'interruption par Alain Maury de 94 à 2001. Et dernière apparition en 2008 avec Les Schtroumpfeurs de Flûte qui est un hommage à l'album qu'on évoque aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme Laurel et Hardy... le personnage, Don Quichotte et Chanson Pancha, il y a un alcoolique qui est un bouffon, donc c'est Pirluit, le bouffon. Il arrive dans le troisième album de la série, en 54, Le Lutin du Bois aux Roches. Donc c'est un petit nain qui est burlesque et pulsionnel, un peu comme c'est le Haddock de Tintin, un petit peu. Il joue, il chante mal, il a un humour musical un peu détouré, on a envie de le faire taire, un peu comme le barde dans Astérix. Il a une monture qui est une biquette et pas un cheval. Et on peut dire que c'est le personnage favori de Peyot. Et peut-être que c'était aussi un écho au personnage de Gaston Lagaffe créé par Franquin. Voilà. Et les Schtroumpfs qui apparaissent dans ces planches-là, eux, vont être les personnages qui vont accaparer Peyot, qui vont, de personnages secondaires, devenir les personnages principaux de l'œuvre de ces dessinateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que leur nom a été trouvé à table avec Franquin. Peyot, ayant un petit blanc sur « passe-moi le sel », au lieu de dire « sel », il va dire « schtroumpf ». Donc là, ils vont s'amuser à remplacer des mots par le mot « schtroumpf ». C'est-à-dire que on va avoir effectivement des jeux de mots, hein, on va remplacer des verbes, des adverbes par le mot schtroumpf, donc créer une espèce de langage particulier. Après, on va les incarner dans 99 petits personnages, hauts comme trois pommes, ils ont tous 100 ans, le grand schtroumpf étant à part. À la base, dans le bébé schtroumpf, on apprend que ce sont des homoncules qui ont été créés sans aucune forme de sexualité. Hein. Ils ont tous un bonnet phrygien et un pantalon blanc. Ils ont des caractères types, il y a le farceur, le costaud, l'intello, le rêveur, le grognon, mais aussi on les détermine par rapport à leur forme de créativité. Il y a un musicien, un cuisinier, un poète, un peintre, un bricoleur. Leur couleur bleue a été trouvée par élimination, puisqu'en fait il faut qu'ils soient dans la nature, qu'on arrive à les distinguer, donc c'est pas vert, c'est pas rouge. Ils s'alimentent par la salse pareille, hein, ce qui est une plante, ils vivent dans des champignons, et en tout cas, ils sont dans une économie rurale et artisanale au Moyen-Âge. Il y a un personnage féminin qui apparaît en 66. C'est une mandragore, c'est-à-dire Gargamel crée un personnage particulier qui était là pour mettre la discorde, mais le grand schtroumpf va la métamorphoser, elle passe de brune à blonde. Il existe quelques schtroumpfs marginaux qui rentrent dans le rang, le schtroumpf volant, le cosmo-schtroumpf ou le schtroumpfeur de pluie. Et en tout cas, ces personnages vont s'entendre pour être complémentaires dans leurs activités et créer de temps en temps un univers musical, une chorale et un hymne des schtroumpfs qu'on va retrouver dans le journal de Spirou avec une fois un 45 tours qui va être donné en bonus. Et bien entendu, il va y avoir une influence des séries télé, c'est intéressant. Le bébé schtroumpf et les petits schtroumpfs apparaissent d'abord à la télévision en 83 et 85 avant d'être repris en album. Et ces personnages, bien entendu, vont avoir un grand succès, mais ce succès, il est lié au film d'animation américain et aux figurines latex qui se développent dès 1965. Alors, dans les planches, on entend effectivement un dialogue entre Johann et Pierre-Louis et le grand schtroumpf, qui serait l'avatar du sage, on va dire le mentor, si on prend l'idée que les scouts, c'est des scouts, les schtroumpfs, peut-être ça serait le grand scout. C'est effectivement un personnage qui va revenir dans Johann et Pierre-Louis, dans l'album 10, dans La guerre des sept fontaines, et il a quand même une fonction, c'est un alchimiste. Hein, de première force, et c'est le plus vieux. Il est bienveillant, mais parfois un peu irascible, parce que les Schtroumpfs, c'est un peu une bande de gamins, et par moments, ils font des bêtises, et le grand Schtroumpf s'agace un petit peu de tout ça. Alors, il y a trois grandes références qui nourrissent la créativité de Peyot. C'est les jeux linguistiques de Loulipo, avec le mot Schtroumpf qui remplace un certain nombre d'éléments de langage. Il y a l'imaginaire médiéval, plutôt fantastique et alchimique, et le contexte socio-économique, avec effectivement des référence à la question du pouvoir et à la monnaie. Donc c'est quand même très intéressant. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans les Schtroumpfs, c'est pas que pour les enfants. Donc l'univers qu'on découvre dans la série qui commence, qui est une variante de Johann et Pierre-Louis, c'est le monde médiéval merveilleux et fantastique à la fois. Donc ce pays maudit dont on rentre par la première planche évoquée, c'est le pays du sorcier alchimiste. Qui est donc Gargamel, c'est Delporte, Yvan Delporte, le scénariste, qui trouve l'idée. Et il y a une enclave un peu de tenue secrète où il y a cet alchimiste bienveillant qui est le grand Schtroumpf. On est vraiment dans la pensée magique pure, puisque j'ai parlé d'alchimie, il y a des envoûtements, il y a des homoncules, et on voit même un personnage de fantôme très émouvant dans La guerre des sept fontaines. Ces Schtroumpfs, ils ont une personnalité individuelle marquée, mais aussi, comme les fourmis ou les guêpes, une espèce de personnalité collective. Le langage, bien entendu, il est marquant, il est rigolo, on remplace des noms propres, des noms communs et des verbes et des adverbes par le mot schtroumpf. Et à part Gargamel, on a des ennemis assez étonnants, ça va d'un géant qui s'appelle Grosse Bouffe à un volatile qui s'appelle le Krakoukas. Et bien entendu, tout ça fait rire, et on est dans énormément d'influence. Peyo est quelqu'un qui a énormément lu, il a vu des dessins animés de Walt Disney, de Tex Avery. Bien entendu, Hergé et Franquin sont des influences majeures, mais aussi le cinéma. Hein, Robin des Bois de Michael Curtis l'a sans doute influencé. Et bizarrement, la lecture de Simenon et de Kessel. Et en tout cas, Peyo a certainement des croyances dans l'au-delà, dans la question de la survie de l'âme après la mort, et ça apparaît dans toute la mythologie des Schtroumpfs. Alors, sur le plan du style graphique, on est dans le style de l'école de Marcinelle, du journal Spirou, comme J.G., Maurice, Will et Franquin. C'est un destin très stylisé, un comique dynamique, avec une forte expressivité et un mouvement en ligne souple, style volontairement non réaliste. Les décors sont stylisés avec peu de détails, mais on peut dire qu'il y a une troisième voie chez Peyo entre la ligne claire d'Hergé et la ligne baroque de Franquin. Il a créé son univers graphique reconnaissable parmi tous. Alors, les grandes thématiques de la série, c'est quand même très large. C'est beaucoup de choses sur la question de l'imposture, du pouvoir, de l'abus de pouvoir, du populisme, le schtroumpfissime notamment, qui est intéressant, les conflits linguistiques, schtroumpf vert et vert schtroumpf, écho de la fracture belge, la parabole du fils prodigue, du schtroumpf marginal. On va défendre des valeurs de travail et de solidarité, l'amitié comme lien social et l'idée d'une vie au rythme de la nature, donc une forme d'écologie avant l'heure. Et la postérité est très importante de cette histoire, puisqu'en fait, l'histoire, la flûte à six schtroumpfs, est adaptée. C'est un des premiers films des studios Bellevision en 1975. Un album tiré du film sort après. Et dès 80, on a le succès de la Schtroumpfmania, 54 langues, 700 licences, les figurines bien entendu, qui ont d'abord été offertes avec les céréales Kellogg's, puis diffusées par Schleich. On en trouve toujours, on a un musée des Schtroumpfs à Bruxelles, pas loin de la Grand Place, des disques de chansons, Vader Abraham en Flandre, Dorothée en France, et les fameuses séries Anna Barbera Studio dès 72. 79, mais 272 épisodes, et Peyo va y consacrer une partie de sa vie, et peut-être même s'y user la santé, énormément de jouets, de jeux, voilà. Et de films en 3D, dès 2010, avec des personnages réels, en live action, un mélange, voilà. Plus ou moins réussi d'ailleurs, mais Peyo ne va pas pouvoir assurer ça tout seul, il va constituer en 64 un studio, bien entendu, parce qu'il y a toutes les licences publicitaires. Il va travailler avec des grands dessinateurs qui vont s'autonomiser. François Valtteri, Goss, Marc Westerlin, Roger Leloup, qui va faire des gags à une planche avec lui, avec Covin notamment. La couleur des Schtroumpfs va être faite par la femme de Peyo, Nine. Hein. Les enfants de Peyo, Véronique, va travailler par la suite sur les droits commerciaux. Et Thierry continue le travail sur l'écriture de la série. Et depuis le départ de Peyo, on a de nouveaux illustrateurs, alors j'en cite quelques-uns, Alain Maury, Pascal Garret, Ludo Borecki, et on a même en 2018 l'idée d'une expérience Schtroumpf en réalité virtuelle, un monde dans lequel on peut rentrer, qui est testé lors de la foire de Bruxelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, on a un hommage à cet album qui s'appelle Les Schtroumpfeurs de flûte, pour les 50 ans de la série. Alors, le sens des Schtroumpfs a été un petit peu mis en polémique par un petit livre bleu qui dit que derrière ça, on aurait une société fasciste, une utopie totalitaire empreinte de stalinisme, de nazisme. Je ne sais pas si c'est vraiment juste. Bon, effectivement, on part du principe que Schmer voudrait dire « socialist man under red father ». Voilà. Alors, est-ce que c'est de l'humour ? Moi, j'irais peut-être dans un autre sens, qui est donné en partie dans Bande dessinée, Imaginaire et Franc-maçonnerie, qui a été publié aux éditions Dervy, c'est que peut-être qu'on peut voir aussi dans les Schtroumpfs, sans donner une appréciation de valeur, une espèce de société initiative, une fraternité, qui pourrait évoquer une forme de franc-maçonnerie idéale, avec l'idée, on l'a évoqué, du laboratoire, du grand maître initié, et du maître du côté obscur, avec Gargamel, et en tout cas, il faut vous rappeler que les Schtroumpfs, c'est l'ingrédient que Gargamel cherche pour faire la pierre philosophale qui permet de transmuter le plomb en or. Voilà, donc peut-être plutôt que de faire des copier-coller avec les idéologies totalitaires, se dire que les Schtroumpfs, s'ils ont autant de succès auprès des jeunes de 7 à 77 ans, c'est parce que c'est une œuvre magique. Donc, Peyo, on peut dire, a su transformer le plomb en or, littéralement, avec sa série. En or physique, il a gagné beaucoup d'argent, mais malheureusement, peut-être qu'il a oublié cette série première où les Schtroumpfs sont nés, Johann et Pierre-Louis, qui était peut-être sa préférée et la plus inventive au profit de la gestion des produits dérivés. Hein, Peyo fait un premier infractus en 69 et en 92, deuxième infractus, il nous quitte à 64 ans. Pour Pierre Delporte, Peyo a été possédé par le dessin animé. Hein, Delporte, dans un hommage, vraiment emploie ces mots-là. Et l'ironie de tout ça, c'est que le dernier album que Peyo scénarise avant de nous quitter, c'est un album sur une satire anticapitale qui s'appelle Le Schtroumpf financier. En tout cas, Les Schtroumpfs, c'est une œuvre marquante de la bande dessinée, l'art de la miniature. Les Schtroumpfs font de nous des éternels enfants et réenchantent le monde, même un adulte relit ça avec aussi plusieurs niveaux de lecture. On peut dire que ce sont des purs mécaniciens de l'imaginaire, et finalement, plutôt que d'y voir du fascisme, peut-être y voir une utopie collective où les principes d'égalité, de liberté et de fraternité seraient enfin mis en pratique. Merci Monsieur Peyo de nous avoir fait rêver avec vos petits personnages bleus.